VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 29 mai 2019. Claire Morin-Gibour et Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres.
Deuxième journée de grève au Soudan, des centaines d'employés ont manifesté pour faire pression sur l'armée.
Investiture du président nigérian Muhammadu Buhari pour un second mandat.
6 mois de prison avec sursis pour un Sénégalais ayant appelé à tuer les femmes.
États-Unis, dans sa première déclaration sur l'enquête russe, Robert Mueller a affirmé que l'inculpation de Donald Trump n'était pas une option légale.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité et les sports.
Au Soudan, des centaines d'employés du secteur privé et public ont manifesté pour la deuxième journée de grève générale. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des centaines de grévistes se sont rassemblés devant le siège de la Banque centrale dans le quartier des affaires de Khartoum qui a été pris d'assaut hier par des forces armées. Nous sommes venus pour dire que nous refusons le gouvernement des militaires, a expliqué Soumaya Osman, une manifestante. Ce matin, l'aéroport de la capitale a commencé à reprendre ses activités malgré le soutien de la suspension des vols des compagnies soudanaises Badr, Tarko et Nova. Hier, de nombreux employés avaient marqué un arrêt de travail. Avant le début de la grève, les dirigeants du mouvement de contestation avaient indiqué que des médecins, des avocats, des procureurs, mais aussi des employés des compagnies nationales d'électricité, d'eau, de télécommunications, de l'aviation civile et des transports publics participeraient au débrayage. Les manifestants demandent désormais un pouvoir civil pour remplacer les généraux. Les négociations sur la transition de 3 ans achoppent sur la répartition des sièges. Chacun réclame la majorité au sein du Conseil souverain.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat. Il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption. Abdourahman Dia.
Aux côtés du vice-président Yemi Osinbajo, Muhammadu Buhari, 76 ans, est arrivé à un stade d'Abuja sous un grand chapiteau blanc et vert, couleur du drapeau nigérian, et entouré d'un grand nombre de militaires et de généraux. Il a prêté serment 3 mois après les élections de février. Aucun chef d'État étranger n'assistait à cette cérémonie, présentée comme sobre par la présidence. Cette prestation de serment marque la fin du processus électoral. Muhammadu Buhari a été réélu avec 56% des voix. Son principal opposant, Atiku Abubakar, avait contesté les résultats. Comme lors de sa première élection en 2015, le président Buhari a promis de s'attaquer à 2 fléaux majeurs que sont les attaques du groupe Boko Haram et la corruption dans son pays, premier producteur de pétrole du continent.
Par ailleurs, l'armée nigériane a repoussé une attaque djihadiste à Maïdougouri la nuit dernière, quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président. Les soldats ont intercepté un grand nombre d'insurgés en périphérie de la capitale de l'État du Borno et se sont engagés dans une bataille intense toute la nuit.
Un Sénégalais a été condamné à 6 mois de prison avec sursis après avoir appelé sur Facebook à tuer les femmes en réaction au meurtre d'une jeune fille le 18 mai à Tambacounda. Le tribunal l'a reconnu coupable de provocation et incitation à la commission d'un crime ou d'un délit, mais relaxé du chef d'apologie du crime. À l'audience lundi, la procureure avait requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme.
Le président congolais Félix Tshisekedi s'apprête à offrir des funérailles en grande pompe à son père, l'ex-premier ministre et opposant Étienne Tshisekedi, décédé en Belgique le 1er février 2017. Nous faisons le point avec Thierry Kabundi de notre radio partenaire Top Congo à Kinshasa.
C'est entre 8h et 9h30 heure de Kinshasa qu'est prévue l'arrivée de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Elle sera accueillie à l'aéroport international de Ndjili par le président de la République Félix Tshisekedi, les membres de sa famille biologique, de son parti politique ainsi que quelques personnalités politiques selon le comité d'organisation de ses obsèques. Ensuite, le cortège funèbre prendra la direction de l'hôpital du cinquantenaire en passant par la résidence d'Étienne Tshisekedi dans la commune de Limété, puis le siège de son parti, l'UDPS, dans le même quartier. Le vendredi 31 mai, la dépouille de l'historique opposant congolais sera exposée au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour des hommages de la nation. La cérémonie officielle, elle, est prévue le samedi 1er juin en présence de quelques chefs d'État africains. Le protocole d'État confirme la présence à ses obsèques de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, de Paul Kagame du Rwanda, de João Lourenço de l'Angola, d'Edgar Lungu de la Zambie, de Fornia Singbe du Togo et de Alpha Condé de la Guinée. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, le nouveau bilan du naufrage d'une embarcation sur le lac Maindombe dans l'ouest du pays est de 45 morts, excusez-moi. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le propriétaire du bateau a été arrêté et devra s'expliquer. Selon le maire d'Inongo, Simombo Wemba, il y avait environ 400 personnes à bord. Seulement 113 figuraient sur la liste des passagers. Il y a eu quelques 183 rescapés.
L'ex-rébellion angolaise de l'UNITA a annoncé le maintien au 1er juin des obsèques de son chef historique Jonas Savimbi après un imbroglio la veille avec le gouvernement sur la remise de la dépouille. À la suite d'une réunion avec la famille Savimbi, l'UNITA a décidé de maintenir son programme avec les obsèques samedi. Jonas Savimbi avait été tué le 22 février 2002 et enterré en catimini à Luenda dans le centre du pays. Il a été convenu que sa dépouille serait remise mardi à ses proches pour être enterré dignement dans son village natal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Ici, aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller a annoncé sa démission. Dans sa première déclaration publique, depuis plus de 2 ans, il est revenu sur ses conclusions de l'enquête sur l'ingérence russe. Eric Manirakiza.
Dans son allocution d'une dizaine de minutes, le procureur spécial Robert Mueller a déclaré qu'il y a eu des efforts multiples et systématiques d'interférence dans la présidentielle américaine de 2016. Tout en confirmant l'existence de nombreux liens entre la Russie et des membres de l'équipe de campagne du candidat Donald Trump, il a estimé ne pas avoir de preuves suffisantes pour conclure à un acte criminel. En revanche, sur les soupçons d'entrave à la justice, il a précisé que l'inculpation du président Trump n'était pas une option légale. Si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis un crime, nous l'aurions dit, a-t-il assuré. Selon M. Mueller, un président ne peut être poursuivi pour une infraction fédérale tant qu'il est en fonction. En réaction, Jerry Nadler, chef démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a promis une réponse du Congrès au crime mensonge de Donald Trump. Il a martelé que personne, pas même le président des États-Unis, n'est au-dessus de la loi. Le président Donald Trump a estimé, quant à lui, que la déclaration du procureur spécial Robert Mueller n'apportait rien de nouveau et qu'il était temps de tourner la page.
Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, a rencontré ce mercredi le roi Abdallah II de Jordanie. Monsieur Kushner est en tournée pour trouver des soutiens au plan de paix israélo-palestinien voulu par Donald Trump. Il a rencontré hier le roi Mohamed VI à Rabat au Maroc et il doit se rendre également en Israël.
Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a plus que quelques heures pour former une nouvelle coalition de gouvernement. Les discussions menées par le chef de l'État, M. Netanyahou, pour réunir le parti laïque et nationaliste et les ultra-orthodoxes, eh bien, ces discussions sont toujours dans l'impasse et en cas d'échec, les Israéliens pourraient être renvoyés aux urnes quelques mois seulement après les dernières élections.
En Irak, 7 Français ont été condamnés à mort en 4 jours à Bagdad pour avoir combattu dans les rangs du groupe djihadiste État islamique. Depuis 2018, des tribunaux irakiens ont condamné plus de 500 étrangers reconnus coupables d'appartenance à Daesh, hommes et femmes, mais aucun de ceux ayant écopé de la peine de mort n'a jusqu'ici été exécuté.
Le chef du Pentagone par intérim a entamé aujourd'hui une tournée d'une semaine en Asie afin de renforcer les liens avec les alliés des États-Unis. Patrick Shanahan espère également avoir des discussions franches avec son homologue chinois.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et tout de suite, l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée par Manit Talani.
La nouvelle société cotonnière du Togo va ajouter un complément de 35 francs CFA sur chaque kilo de coton graine vendu par le coton culteur au cours de la campagne 2018-2019, rapporte l'agence Ecofin. Une fois versé, ce complément portera le prix du kilo d'or blanc de 250 francs CFA à 285 francs CFA. Selon la société d'État qui gère la filière, ce prix final est le meilleur pratiqué dans l'ensemble de la sous-région. Vedanta se dit prêt à investir en Zambie pour augmenter la production de cuivre de ce pays à 400 000 tonnes, créant ainsi 13 000 emplois supplémentaires à Konkola Copper Mines. C'est pourquoi Vedanta s'oppose à la décision prise ce mois-ci par le gouvernement zambien de nommer un liquidateur provisoire pour gérer l'activité KCM de Vedanta Resources, accusé d'avoir enfreint son permis d'exploitation. La procédure judiciaire a été ajournée au 4 juin. Pour finir, en Côte d'Ivoire, le Conseil du coton et de l'anacarde a annoncé hier une suspension temporaire des agréments d'exportation de noix de cajou. Cette mesure durera le temps de contrôler les accords de vente noués dans la filière. Le Conseil estime que des contrats signés largement en dessous de 1 200 $ la tonne ne peuvent pas respecter le prix bord champ de 375 francs le kilo. Selon le Conseil, les prix d'achat des noix ont connu une tendance baissière sur le dernier semestre 2018, passant à 1 500 $ la tonne contre 2 200 $ la tonne au début de l'année.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire dévoile une pré-liste pour la CAN 2019.
Oui, on note le retour de Wilfried Bonny, 30 ans, désormais exilé à Al Arabi SC au Qatar. Une absence remarquable, c'est celle de Gervinho. Le retour de l'ancien attaquant de Lille et d'Arsenal, qui n'a plus joué en sélection depuis novembre 2017, était annoncé avec insistance compte tenu de sa bonne saison écoulée avec Parme. Gervinho, 32 ans, avait aussi manifesté son désir de rejouer avec les éléphants, avec qui il a remporté la CAN en 2015. Le sélectionneur Ibrahim Camara a soutenu qu'il a des joueurs de grande qualité dans les couloirs, en citant notamment Nicolas Pépé, Maxwell Cornet ou encore Max Gradel. La liste définitive des 23 pour la CAN sera publiée le 9 juin. Les éléphants entameront leur préparation en France où ils joueront un premier match amical contre les Comores le 7 juin à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France.
Le Mali se relance dans le mondial des moins de 20 ans.
Oui, champion en titre, les Aigles ont arraché la victoire contre l'Arabie Saoudite lors de la deuxième journée de la phase de groupe 4-3. Perdant 0-2 après 20 minutes de jeu, le Mali a égalisé à 2-2 sous l'impulsion de Koïta, passeur puis buteur. Les Saoudiens ont repris l'avantage, mais Mohamed Camara a tout changé. Déjà à l'origine du seul but malien face au Panama 1-1, il a bien servi Traoré pour le 3-3 avant de marquer à la 90e après une action personnelle de l'inévitable Koïta. Grâce à ce succès, les Aigles sont maîtres de leur destin. Un match nul face aux Français ce vendredi leur assurera une place au second tour. Rien ne va par contre pour l'Afrique du Sud. Après s'être incliné 2 contre 5 lors de la première journée face à l'Argentine, les Sud-Africains sont encore tombés face aux Sud-Coréens 1-0.
Finale de la Ligue Europa ce soir.
Et oui, Londres s'exporte à Bakou avec une finale Chelsea-Arsenal. D'un côté, les Blues, troisième de Première Ligue, rêvent d'offrir un dernier sacre à Eden Hazard en partance pour le Real Madrid cet été après 7 campagnes fructueuses. De l'autre, les Gunners, qui veulent redorer leur blason jauni par la fin de l'ère Arsène Wenger, doivent s'imposer pour retrouver la Ligue des Champions après avoir échoué en championnat à la 5e place à un point de leur objectif. À leur tête, Unai Emery, l'expert vainqueur 3 fois de l'épreuve avec Séville.
Merci. Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Claire Morin-Gibourg et Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, réélu le 23 février dernier pour un second mandat, a prêté serment ce matin à Abuja. La cérémonie n'a pas attiré les foules à cause du changement de la célébration de la journée de la démocratie, observée habituellement le 29 mai. La grande cérémonie de cette journée se tiendra ainsi le 12 juin devant plusieurs chefs d'État. Et voici le reportage de Gilbert Tamba.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear.
Je jure de préserver, de protéger et de défendre la constitution de la République fédérale du Nigeria. C'est en ces termes que le président Muhammad Buhari a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête du Nigeria. Une prestation marquée par 21 coups de canon. Il n'y a pas eu une cérémonie en grande pompe pour ce 29 mai 2019 comme d'habitude. Les festivités ont été renvoyées au 12 juin, désormais célébrées chaque année comme journée de la démocratie. C'est le président lui-même qui a effectué ce changement pour marquer la tenue de l'élection de 1993 qui avait vu la victoire de Mouchoud Abiola, mais annulée par la suite par des autorités militaires de l'époque. Pas de discours non plus et pas d'invité de marque. Muhammad Buhari a prêté serment aujourd'hui pour éviter une crise constitutionnelle, ce 29 mai étant le dernier jour de son premier mandat. Dans les rues de la capitale Abuja, les attentes des Nigériens sont multiples. C'est le cas de Aniekan Iyo Idem.
Nous attendons de voir la réalisation de toutes ses promesses, même s'il les a déjà commencées. Pour son premier mandat, nous lui avons brandi un carton jaune en guise d'avertissement. Ce carton reste maintenu. Donc, il doit faire son mieux pour réaliser les promesses faites.
Âgé de 76 ans, le président Muhammadu Buhari a battu son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, avec une marge de près de 4 millions de voix le 23 février dernier. Le PDP, le Parti démocratique populaire de l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a rejeté les résultats. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Suite à la flambée de la violence dans le centre du Mali, l'ONG International Crisis Group a publié hier un rapport invitant le gouvernement malien à dialoguer avec les groupes djihadistes et la rébellion Touareg au moment où la solution militaire peine à se concrétiser sur le terrain. Pour une analyse, Modibo Dembélé a joint à Bamako le directeur de publication du journal Devoir de vérité, Mohamed Attaher Alidou.
La sélection de l'IPG, c'est une proposition. Il va sur le terrain, il rencontre aussi les acteurs. De discuter avec les groupes djihadistes, c'est pas nouveau. Rappelez-vous que au Mali, il y avait la mission des bons offices, dirigée par l'imam Mahmoud Diko. C'était avec le premier ministre de l'époque, Abdoulaye Drissa Mega. Le cap, c'était de discuter avec Koufa et Niyada Kali. Et Mahmoud Diko, l'imam avait même pris langue avec ces personnes-là pour faire bouger les lignes.
De quoi peut-on discuter avec des radicaux
radicaux-djihadistes.
Dans le contexte malien, il y a les djihadistes radicaux, il y a les djihadistes maliens. Amadou Koufa et Yad Agali sont des Maliens. À un moment donné, dans un cadre de réconciliation nationale, parce qu'aujourd'hui, il y a le vent en poupe, il serait intéressant de discuter avec tous les fils de la nation, les gens qui ont pris les armes malheureusement contre leur pays, pour leur faire comprendre que cette action ne sert pas l'islam, parce qu'ils prétendent défendre l'islam, et ne les sert pas aussi eux-mêmes, en tant que Maliens tout court. Donc je pense que ça peut être une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, la solution militaire a vraiment montré ses limites. Le Mali n'a pas les moyens de son orgueil. L'armée malienne qui est toujours en reconstruction, donc ce n'est pas évident aujourd'hui. La mission principale de des bons offices, il devait prendre langue avec ces groupes, particulièrement Yad Agali et Amadou Koufa. Même au niveau de la conférence internationale, le sujet a été lancé de discuter avec ces deux chefs djihadistes radicaux maliens. C'était une façon de faire bouger les lignes. Là, de quoi ils vont parler, c'est certainement pour les faire dire tout simplement de revenir dans la République et de poser des revendications et de trouver la réponse à ces revendications dans un processus démocratique et d'éviter de prendre les armes contre son pays.
Nous savons que les groupes djihadistes, la plupart veulent appliquer la charia, alors que le Mali, c'est une république, un pays laïque. Vous ne pensez pas que cela irait en porte-à-faux avec les valeurs républicaines?
Oui, c'est vrai que le Mali est un pays laïque. Ce sont des religieux qui doivent discuter avec eux. Ils vont poser sur la table toutes ces questions-là, trouver tous les contours pour essayer de faire bouger les lignes. Ce n'est pas pour rien que le choix a été porté à l'époque sur l'imam Mahmoud Dikou. C'est quelqu'un qui connaît bien la religion musulmane, qui connaît aussi la République. Il sait que le Mali est un État laïque. Donc, c'était les questions à aller tourner sur ces aspects-là. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont renoncer à appliquer la charia? Ça, je ne saurais le dire. Mais et tout de même, aujourd'hui, discuter avec ces djihadistes-là, aujourd'hui, paraît une urgence parce que la solution militaire a montré tout simplement ses limites.
C'était le directeur de publication du journal Devoir de vérité, Mohamed Attaher Alidou. Il était joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Plus de 2 millions de personnes, dont près d'un million d'enfants, sont menacées de famine en Somalie du fait d'une grave sécheresse. L'ONU a lancé un appel à l'aide. De Mogadiscio, voici le reportage de Mohamed Cheikh Nor et le récit est de Lionel Gaïma.
Manquant d'eau et de vivres, des dizaines de milliers de Somaliens ont fui leur village ces trois dernières semaines pour se réfugier près de Mogadiscio, la capitale. Jawaro Mohamed est épuisée. Elle est déjà mère de 4 enfants et attend le 5e.
Après la mort du cheptel, la vie était devenue intenable au village. Et la famille a dû marcher 15 jours d'affilée pour parvenir au camp.
La sécheresse et la perte de moyens de production exposent des centaines de milliers de Somaliens à la famine. Le petit Amina, âgé d'un an, souffre de malnutrition. D'après sa mère, Nima Al-Hassan.
Cela fait 6 mois que l'enfant souffre et cela est dû en grande partie aux difficultés, notamment la sécheresse et le manque de nourriture adéquate.
Une aide d'urgence est nécessaire pour éviter une crise humanitaire, a fait savoir Justin Brady, chef du bureau de coordination humanitaire de l'ONU en Somalie.
Le niveau d'adaptation et de résilience de ces communautés s'est détérioré au cours des dernières saisons. Le gouvernement a accentué la mise en place d'un cadre de rétablissement, mais ces solutions ne seront pas mises en œuvre du jour au lendemain.
Beaucoup doit être fait au niveau local pour prévenir le déplacement massif des personnes, estime pour sa part Mokhtar Hussein, un responsable du ministère somalien des Affaires humanitaires.
Le ministère propose de l'aide et encourage les gens qui peuvent encore tenir pour éviter qu'ils ne quittent leur village.
Une prompte réponse humanitaire avait permis de mitiger l'impact de la sécheresse de 2017 qui avait déplacé près d'un million de Somaliens. L'espoir est que les donateurs seront aussi généreux cette fois-ci.
Retour. retour sur la première sortie publique du procureur spécial Robert Mueller ici à Washington. Monsieur Mueller est revenu sur ses conclusions de l'enquête sur l'ingérence russe et il a annoncé sa démission. Idriss Fall a recueilli la réaction du républicain Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
D'abord, il a dit que les Russes ou Poutine ont bel et bien fait un grand travail pour faire l'ingérence dans l'élection de 2016. Et ils ont voulu faire ça en faveur de M. Trump et contre Madame Hillary Clinton. Ils ont voulu que Trump gagne et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de changer notre élection.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collusion?
Non, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de collusion. Il y avait de collusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Trump qui ont travaillé avec certains agents russes. Mais il a dit sous la loi, il n'y avait pas assez de preuves qu'ils ont fait quelque chose de criminel.
Qu'en est-il de l'obstruction à la justice?
Il a dit que sous la loi américaine, un procureur n'a pas le droit d'inculper un président des États-Unis quand il est en exercice, quand il est à la Maison-Blanche. Ça, c'est la Constitution. Et il a dit, si nous avons eu une preuve que le président n'a pas fait une chose criminelle pour empêcher cette enquête, nous aurions dit. Donc, il n'a pas dit que le président est exonéré d'avoir fait quelque chose de criminel. C'est au Congrès des États-Unis de décider s'il a fait une chose criminelle.
Il n'a pas contredit le résumé que le ministre de la Justice, William Barr, avait annoncé publiquement.
En disant que le président n'a rien fait criminel, c'est-à-dire je ne peux pas le dire, il a contredit le ministre de la Justice qui a dit « c'est tout à fait clair que le président n'a rien fait de mal ».
Donc il n'y aura aucune suite dans cette affaire-là?
Les commissions du Congrès ont annoncé qu'ils voudraient appeler M. Mueller de venir chez eux pour faire des témoignages, mais il a dit je ne peux rien faire d'autre ce qui est dans le rapport, ce que je viens de dire. C'est au Congrès maintenant de prendre des décisions. Chez les démocrates, dans la Chambre des représentants, il y a de plus en plus de membres de cette Chambre qui appellent pour commencer une procédure d'empêchement du président.
Mais ça, c'est une décision politique et le Sénat est dominé par les républicains.
Tout à fait clair que si la Chambre des représentants, qui est contrôlée par les démocrates, décide que le président Trump doit être chassé de son travail, le Sénat, qui est républicain, ne va pas être d'accord et ils vont voter contre ça. Donc certains démocrates disent c'est pas la peine alors, il faut arrêter maintenant. Donc ils sont en train de réfléchir là-dessus maintenant.
Le républicain Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
À San Francisco, en Californie, la première ville américaine à interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police et d'autres agences administratives. De plus en plus de personnes se méfient de la puissance technologique pendant que d'autres y adhèrent. Voici un reportage de Dina Mitchell, récité par Lou Ndiaye.
San Francisco est surnommée la capitale mondiale de la haute technologie. La ville a récemment interdit à la police et d'autres agences l'utilisation de la reconnaissance faciale. Les partisans de cette réforme disent que c'est une menace aux libertés civiles. Nathan Sherd de la Fondation Frontières électroniques.
Le fait que les forces de l'ordre et les agences gouvernementales seront en mesure de traquer les résidents qui se déplacent en ville, l'effet potentiel de leur enlever les droits garantis par le premier amendement de notre Constitution, c'est assez inquiétant.
Aaron Peskin est le membre du conseil municipal de San Francisco.
C'est une technologie qui a déjà mal identifié 28 membres du Congrès américain. Elle peut donc être mal utilisée par les gouvernements.
John Bolamwini, fondateur de la Ligue de justice algorithmique, abonde dans le même sens.
Au minimum, le Congrès devrait passer un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police à cause des risques d'abus. Le manque de supervision est une technique à risque, particulièrement pour les communautés marginalisées.
Mais d'autres estiment que cette technologie, tout comme la biométrie pour les empreintes digitales, peuvent être bénéfiques pour l'humanité. Pour Bruce Hanson, créateur de Credence ID, la mesure prise par San Francisco est trop sévère.
Une interdiction me semble être la mauvaise décision. Certainement, il y a besoin de revoir l'utilisation. Nous pouvons débattre sur sa place dans notre société, mais se débarrasser de la biométrie, c'est comme se débarrasser d'Internet, parce que cela sert à faire du mal.
Les législateurs de Washington sont en train d'évaluer l'impact sur les droits civiques. Les critiques disent qu'elle a des lacunes et ne marche pas souvent sur les femmes et les personnes de couleur. Mais la reconnaissance faciale semble avoir beaucoup d'avenir. La Chine l'a adoptée pour sa sécurité intérieure et même l'utilise dans les toilettes publiques pour distribuer le papier toilette. Apple l'utilise pour débloquer son dernier iPhone. Les actionnaires d'Amazon ont voté 2 fois pour limiter l'utilisation de ce logiciel, mais ont échoué 2 fois.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Justin Twetz. À la présentation, c'était Claire Morin-Gibourg et Nathalie Barge.